Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h30.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Remue ménage à France Télévisions, la motion de défiance contre le patron de l'info Michel Field est soumise au vote aujourd'hui et la nouvelle grille de rentrée devrait changer nos habitudes. État des lieux dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque. Marina Kaye est actuellement en tournée partout en France à suivre le reportage de Steven Bellery qui a assisté à un de ses concerts. 10 ans après son ancrage à Venise, la fondation de François Pinault dédiée à l'art serait en négociation avancée pour s'implanter à Paris. Qu'en dit l'état-major de l'homme d'affaires, Monique Younes, a enquêté. Et puis, nos rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des DVD de la série No Offense diffusée en début d'année sur France 2.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors nous commençons ce matin par l'actualité et France Télévisions. Le groupe fait beaucoup parler de lui à cause de la motion de défiance soumise aujourd'hui au vote des rédactions contre le patron de l'information du groupe, Michel Field, et à cause de la refonte en profondeur des programmes de toutes les chaînes du groupe. Isabelle.
Exactement. La nouvelle patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, avait promis du changement et il y en a, plus même qu'elle le souhaitait avec, comme vous dites, le vote de la motion de défiance des rédactions envers Michel Field, en poste depuis 4 mois et accusé à la fois de mépriser les journalistes et les syndicats, mais aussi de brader la production des émissions d'information au privé. On va s'en tenir au programme aujourd'hui. Alors, il a dû, par exemple, renoncer à faire produire par Renaud Levent-Kim, un ancien de Canal+, le futur magazine politique du jeudi de 20h15, présenté par Karim Rissouli. Ce magazine sera finalement produit en interne, comme devrait l'être le futur grand magazine politique du jeudi, a priori présenté par le trio Léa Salamé, Karim Rissouli et David Pijada, ceux du Dialogue Citoyen.
Alors, en fait, tout bouge, notamment à France 2.
Oui, alors, il fallait bouger, c'est vrai. Comme dit l'autre, la télé, c'est comme les vélos, si on n'avance pas, on tombe. D'ailleurs, dans les deux cas, il y a des chaînes. Des émissions vieillissantes avec audience vacillante, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ce qui est reproché à la direction, c'est de peu consulter, de passer en force. Du coup, le public a le sentiment qu'on ne veut plus de lui. Or, c'est plus facile de perdre un public que d'en gagner un. Sur France 2, chamboulement, on vous l'avait dit, des après-midi, avec l'arrêt de tout. Toute une histoire, comment ça va bien, dans la peau d'un chef. Sophie Davant, qui tourne un pilote mardi prochain, est remplacée par Frédéric Lopez. Et une quotidienne de témoignages. Vous voulez intervenir ?
Non, je voulais dire d'aller plus doucement.
Une quotidienne de témoignages. Il pourrait être suivi par Stéphane Bern dans une émission d'histoire ou dans un divertissement co-présenté avec Amanda Scott, la jeune femme qui monte.
Oui.
Je vous rappelle qu'il a tourné 4 pilotes. Hein. Souvenez-vous, on l'avait dit. Et c'est a priori Thomas Tourou, transfuge de Canal+, qui aurait le talk show d'avant 20h. Sachant que d'autres projets sont à l'étude, notamment un avec Manu Lévy et Bruno Guillon, par ailleurs totalement prévu dans la nouvelle émission d'Arthur sur TF1. Ce qu'il faut retenir sur la 2, c'est la perte du dimanche après-midi pour Michel Drucker, voilà. Concentré sur un vivement dimanche prochain rallongé à 18h50. L'arrivée en force de Laurent Delahousse le même jour à 13h avec une fois par mois ses verbatim. Plus à 20h50, deux grands documentaires politiques. Plus à 20h, un rendez-vous politique dans le 20h qu'il est en train d'étudier. L'homme fort de la 2 est une femme, Élise Lucet, en charge, on le sait, d'envoyé spécial, complément d'enquête en alternance avec le fameux magazine politique qui va venir. On note que si France 2 a déjà des idées précises des programmes, un magazine culturel baptisé Stupéfiant à 22h50, produit par le monsieur du petit journal, Laurent Bon, le producteur, un concours de peintres amateurs et un autre de maquilleurs à effets spéciaux à 20h50, elle mise aussi beaucoup, surtout sur les personnalités. Par exemple, Laurent Ruquier, qui va bénéficier d'une déclinaison de On n'est pas couché, rediff le dimanche après-midi, spécial à 20h55. Sans oublier un magazine du cinéma façon Pierre Tchernia, dont la 2 ne précise pas le jour de diffusion. Alors moi, Laurent Ruquier, j'avais entendu dire que c'était le mardi.
A priori, je crois que c'est le mardi aussi. Mais vous savez, on est sûr de rien encore à cette époque de l'année. Mais normalement, puisque l'émission doit s'appeler Mardi Cinéma, ce serait dommage de la passer un jeudi. Mais allez savoir. Normalement, on doit faire 3 émissions avant la fin de l'année. Et ce sont des prime time. C'est vraiment une émission de divertissement autour du cinéma. Il y aura des jeux qui seront prétexte à amusement avec les invités. Ça manque sur le service public une émission où les acteurs vont pouvoir venir parler de leurs films, être interviewés. Une émission d'accueil sur le cinéma. Voilà. Et ils viendront se faire critiquer le samedi soir dans On n'est pas couché. Mais pas dans celle-là. Voilà.
Et alors, On n'est pas couché puisque vous en parlez, samedi soir et dimanche après-midi.
Et ça, je n'en sais rien. Franchement, c'est une décision de la chaîne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je n'en sais rien et je ne sais pas où ça en est.
Et dernier point, On n'est pas couché à 20h50 de temps à autre.
Oui, ça de temps à autre. C'est pas défini non plus. C'est du domaine du possible, comme on dit.
Oui, ça va l'être quand même.
Alors sur la 3, il y a aussi de gros changements. Hein.
Annoncé comme des changements en douceur. Sauf que l'affaire Question pour un champion a laissé de telles traces désastreuses, d'autant que l'émission fait en audience nettement moins que Julien Lepers, que le public est plutôt hostile. Surtout que se prépare une refonte logique du jeu de 44 ans d'âge, des chiffres et des lettres, que Thalassa devient mensuel, que 30 millions d'amis disparaît. Ce qui ne devrait pas déplaire à un public sexagénaire pour le moins dubitatif, c'est la promotion de Dave le dimanche après-midi avec un magazine culturel. Il aura une bande. D'André Manoukian avec une histoire secrète des chansons trimestrielles en public, l'arrivée de Faut pas rêver le mercredi en alternance avec Des racines et des ailes, le retour de Christophe Ondelat, mais donc sur la 3 qui fera découvrir le monde des procès d'assises. C'est une vraie tendance, les procès d'assises, case à partager avec d'autres magazines. Là aussi, la chaîne mise sur les personnalités maison. Certes, Julien Drieux qui gagne deux cases, le samedi avec Thierry Mars, le dimanche pour l'émission avec les potagers, mais surtout Marc-Olivier Fogiel. Dana Astier, la patronne de France 3, l'adore et veut le convaincre d'assurer au moins un magazine à 20h50, au moins un. Alors, Marc-Olivier Fogiel ?
Ce qui est vrai, c'est que Dana Astier m'a proposé de revenir autour de sujets de société à 20h50 dans une forme innovante. Évidemment que ça peut m'intéresser. Maintenant, est-ce qu'on ira au bout ? Je serais bien incapable de vous le dire aujourd'hui.
Mais dites-moi, à force d'en parler publiquement, est-ce qu'elle ne serait pas en train d'essayer de vous forcer la main ?
Non, là où elle pourrait me forcer la main, c'est au quotidien, à force de me dire qu'elle croit à un projet. C'est vrai que les déclarations d'amour public, ça me touche. C'est pas pour ça que je vais accepter, si j'ai pas le bon projet, compatible avec le reste de mes activités professionnelles et familiales surtout. Moi, ce que je fais à RTL aujourd'hui me prend tout mon temps. Vous êtes bien placé pour le voir. Le peu de temps qui me reste le soir, je travaille sur le divan. Une fois que j'aurai terminé mes tournages du divan, je réfléchirai à un projet et on verra bien si j'ai l'idée du siècle ou pas.
Et alors, on termine par justement le divan de ce soir. C'est Muriel Robin.
Franchement, elle a une personnalité unique. C'est donc un divan unique, vraiment.
Moi, je pensais déjà que celui de Marlambert Wilson était unique.
Il était exceptionnel. Celui-là est unique.
Voilà Muriel Robin que nous a déjà fait découvrir hier Anthony Martin et là on a les images.
Et puis on note sur France 4 l'arrêt du magazine On n'est plus des pigeons et sur France 5 de On n'est pas que des cobayes.
Oui, le groupe en veut aux animaux. Hein. Les pétitions commencent à circuler pour sauver ces magazines, plus Média Le Max sur France 5 dont la suppression fait beaucoup parler. Sont en revanche sauvés a priori les maternelles, France 5 devenant la chaîne de la science, du documentaire, de la politique le dimanche et du cinéma avec Dominique Besnéard qui fera redécouvrir des films des années 80. France 4 se recentre sur la famille avec des séries qui se veulent drôlatiques et alors c'est là qu'on trouvera quelques animaux avec une saison aux zoo. Voilà, affaire à suivre. À suivre aussi la motion de défiance contre Michel Fil. Je vous livre cette réflexion des syndicats pour finir. Il est en roue libre et il dérape tellement qu'on se croirait au trophée Andros.
Bah on va terminer avec... Voilà. Ah non, les audiences, vous les voulez maintenant. Normalement, vous en avez un jeu, mais moi, je veux bien. Alors, les audiences de notre soirée télévisée.
Eh bien, Risoliana et Spice passent devant la une. 4 510 000 téléspectateurs pour le polar de la 2 devant la rediffusion de Joséphine Ange-Gardien. 4 030 000. Et alors, en troisième position, un score nettement en hausse pour Top Chef, dont la moyenne était à 3 millions de téléspectateurs. Et là, on atteint les 3 400 000 et 16% du public sont donc revenus regarder des gens qui n'avaient jamais vu les épisodes précédents. Voilà. Et côté TNT, on a donc les 4 fantastiques. Et puisqu'on en est à parler de Top Chef, allez, on se refait un petit plaisir si j'ose dire.
Allez-y.
Bah, je suis sur la rampe de lancement, je pense qu'on n'a qu'une chance dans notre vie. Bah, je dois la saisir, c'est celle-là. On y va à fond.
Vous êtes en train de me dire que vous avez peur que ça s'arrête brusquement ?
Non, j'ai pas peur que ça s'arrête parce que j'ai quand même un métier, j'ai quand même un restaurant où je travaille. Bon, je suis pas quelqu'un de la télévision, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut m'aider à aller plus vite dans le milieu de la cuisine ou autre chose, je ne sais pas. On verra ce qui m'arrive par la suite. Mais tout faire pour pas qu'on m'oublie, je suis là, c'est moi, c'est Xavier, Top Chef 2016, et c'est magique.
Vous avez un physique qui devrait vous aider à ça.
Oui, bon, non, ça, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas parler de mon physique, c'est vrai que bon, je vais pas me vanter là-dessus, c'est pas la peine.
Bah non,
et oui, car
bon,
il a le regard. Il a le regard bleu fond de piscine, Xavier Pincemin, qui est donc le gagnant de Top Chef section 2016.
Alors, nous vous offrons, je vais y arriver aujourd'hui, les DVD de la saison 1 de No Offense. C'est un polar britannique mordant, déjà culte, qui montre le quotidien d'une équipe de flics de Manchester, dirigée par une enquêtrice totalement déjantée et installée dans un commissariat de quartier miteux. No Offense a été diffusé en début d'année sur France 2, mais pour gagner cette série, il faut répondre à la question que vous pose maintenant Isabelle.
Eh bien, quelle personnalité de France 2 présentera l'an prochain le nouveau magazine du cinéma de la chaîne ?
Il s'agit de... Vous avez eu peur, hein ? Voilà. Allez, réponse au 32-10. Dans quelques instants, on va parler musique et ce sera bien entendu en compagnie de mon camarade Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Musique à présent, sacré album RTL 2015, Marina Kaye poursuit sa tournée partout en France. Son premier album paru il y a un an est un succès. Déjà plus de 200 000 exemplaires écoulés. Alors après le printemps de Bourges, la chanteuse de 18 ans était à l'Olympia à Paris vendredi. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et vous étiez bien entendu dans la salle pour RTL.
Ouais, 5 gros projecteurs surplombent la scène. Pas de décor ou de vidéo, la voix est juste la voix de Marina. Pantalon noir et petit top bleu, la jeune fille apparaît en contre-jour avec cette chanson Iron Heart qu'on entend en début de concert. 4 musiciens autour Marina Kay. Après 3 titres, la chanteuse salue le public.
Oh mais moi je suis dans un état de stress, mais vous avez même pas idée. C'est un truc de dingue. Non mais vous imaginez, si un jour, quelqu'un m'avait dit qu'à 18 ans, avec un album et 2 ans sur le terrain, je remplirais un Olympia, mais merde !
Et elle déroule les chansons de son premier album, Fearless, 17 morceaux en 1h40. L'écran est pop-rock, les jeux de lumière sont particulièrement soignés, la production était uniforme sur disque, son répertoire gagne en relief en live. La jeune artiste est beaucoup plus nuancée sur scène, exemple avec Sounds Like Heaven, chantée avec un violoncelliste.
The land that sounds me.
Marina Kay fait preuve d'une incroyable maîtrise vocale. On sent qu'elle a complètement digéré la technique. Du coup, ça vire parfois à la démonstration, mais on lui pardonne. Elle dégage une force si étonnante. Pourtant, Marina l'avoue, elle ne travaille pas vraiment sa voix.
Non, je travaille pas ma voix, malheureusement. Ouais. Je suis pas sérieuse, mais je chante tout le temps, donc je me dis que c'est comme ça. Je sais, c'est pas un vrai travail, je sais, je fais pas attention à ma voix. Mais bon, je me dis que voilà, pour moi, ma voix, ça n'a vraiment aucun rapport avec des cours de chant ou avec une astreinte. Pour moi, c'est vraiment un truc, c'est de la passion, quoi. C'est vraiment ça. Et j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit que ma voix, c'est 20% de talent, et puis c'est 80% de ce qu'il faut que ça sorte, quoi. Plus je suis en colère, plus fort ça sort. Et ça, ça dépend des jours.
Oh, oh, ah.
Alors Marina Kay évoque une colère qu'elle arrive enfin à évacuer avec la scène, Steven.
Ouais, je m'en rappelle pourtant de ses premières parties avec Florent Pagny, totalement statique. Cela a bien changé en quelques mois. Marina Kay a découvert qu'un concert pouvait aussi être synonyme de plaisir.
Ah ouais, avant j'étais derrière mon pied et puis je bougeais pas et puis Guigui parlait comme ça, je n'osais pas, j'appréhendais à chaque fois que je devais dire un truc entre les chansons, j'étais mal. Ouais, non, c'était complexe. Par contre, plus c'est allé, plus c'est devenu un truc normal, quoi. C'est assez récent, mais j'aime bien m'éclater sur scène, quoi. En ce moment, c'est un défouloir, ouais, clairement, parce que c'est vrai qu'on a reconstruit le show pour la tournée d'avril. On a accéléré même les choses qui étaient compliquées à accélérer. Sur scène, c'est vraiment le délire, quoi.
Un délire plus palpable en deuxième partie de concert. Elle est impeccable sur sa reprise de Feeling Good de Nina Simone et enfonce le clou avec son tube Homeless. L'Olympia est debout à la sortie, son jeune public est sous le charme.
Elle a un grain spécial, elle monte dans les aigus, elle descend dans les graves à une rapidité impressionnante.
Moi, ce qui me plaît énormément chez elle, c'est l'émotion qu'elle dégage de son vécu et elle en fait une force admirable.
Ah bah Marina, c'est une voix exceptionnelle, c'est énorme, c'est énorme.
J'adore sa voix, la façon dont elle chante, sa présence sur la scène.
I'm feeling good.
C'est vrai qu'on a tendance à vouloir l'écouter. Alors, ça, c'était dans le grand studio, ouais. Quand elle avait reçu son prix de l'album RTL de l'année. Comment vit-elle tout ce qui s'est passé pour elle depuis un an, Steven ?
Bah, pas si bien que cela, confidence.
Assez difficilement, c'est vrai, d'une certaine façon, parce que je suis vraiment rentrée dans un engrenage de stress permanent. Travailler tous les jours, et même quand ça s'arrête, je pense à autre chose. Donc c'est vrai que ça s'arrête vraiment jamais. Et puis juste maintenant, je viens de réaliser qu'il faudrait que je m'apaise un peu, quoi. Et que c'est bête de prendre ça pour quelque chose de difficile au lieu d'en profiter. Mon souci à moi en permanence, c'est de donner la même chose partout, tout le temps. Et ça, c'est compliqué. My heart is breaking. My world is crashing to the floor. The part you've taken is not forgiving anymore.
Marina Kaye est en tournée partout en France, ce soir à Nantes, demain à Tours, au Main Square d'Arras le 2 juillet ou encore au Franco de la Rochelle le 13 juillet. I've had to
play. Alors on va poursuivre avec d'autres infos musiques à présent. Nolwenn Leroy est à la campagne.
Oui, la chanteuse qui prépare tranquillement son 6e album sera la marraine des prochaines rencontres d'Astafor du 12 au 20 mai. Nolwenn aidera des jeunes artistes à écrire et composer des chansons. Le patriarche Francis Cabrel sera bien sûr dans le coin. Concert de clôture ouvert à tous le vendredi 20 mai dans cette petite commune du Lot-et-Garonne.
David Thibault, le sosie vocal d'Elvis Presley, va sortir un album.
Le jeune Québécois de 18 ans, finaliste l'an dernier de The Voice, publiera le 27 mai un disque de reprise avec quelques inédits, l'occasion de faire découvrir son univers blues rockabilly. Un premier extrait vient d'être dévoilé. David Thibault revisite le standard de Chris Isaak, Blue Hotel.
Le petit David Thibault, toute l'actualité musicale nous était proposée par Steven Bellery dans un instant. On va se balader avec chez François Pinault, oui. Voilà, un ami de Monique Younes. Ce sera assez chic, vous êtes conviés vous aussi. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h21, Monique Younes. François Pinault vient de fêter à Venise les 10 ans de sa fondation dans la cité des Doges.
Exactement.
Tandis qu'à Paris, les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur l'acquisition d'un lieu parisien dédié à sa fameuse collection.
Oui, collection. Commençons par la fête, si vous voulez bien. Samedi soir à Venise, dîner à l'hôtel Bauer avec les artistes exposés et quelques invités triés sur le volet. On fêtait donc les 10 ans de la collection Pinault à Venise, qui occupe le Palazzo Grassi, la Pointe de la Douane et le Teatrino, mais sans prononcer le mot anniversaire.
Ah bon ?
François Pinault n'aime pas, n'a jamais aimé, paraît-il, les anniversaires, m'a dit Martin Bettenau, le directeur du Palazzo Grassi.
Oui, ben vous savez, même si on ne célèbre pas les anniversaires, ça permet toujours de faire un petit peu le point. Donc le point, en l'occurrence, c'est qu'en 10 ans, on a montré à Venise, au Palazzo Grassi et à la Pointe de la Douane, 19 expositions, que ces expositions ont permis de présenter plus de 1700 œuvres, de plus de 300 artistes différents. Donc souvent, vous savez, on dit avec la collection Pinault, c'est quelques grands artistes, mais non, pas du tout. C'est plus de 300 artistes qui ont été montrés, qui ont été accompagnés dans des générations différentes, des artistes très connus, des artistes émergents. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi un grand succès public. Hein. Au total, on aura reçu ici plus de 2,2 millions visiteurs. Puis au-delà des expositions, c'est aussi le développement d'une politique culturelle très, très dense avec des concerts, des conférences, des projections et des performances.
Alors, 10 ans, c'est l'âge de la maturité pour la Fondation Pinault, comme pour le milliardaire qui a beau détester les anniversaires, aura bientôt 80 ans.
Ah bah ça y est, vous l'avez dit.
Apaisé.
Alors, on est fâché avec lui maintenant.
Enfin, on le sent apaisé, François Pinault. On sait désormais qu'il est un des plus importants collectionneurs des artistes les plus chers du monde, de Jeff Koons à Murakami en passant par Damien Hirst, trois stars de l'art comptant, comme on l'appelle désormais dans le milieu, qui était de la première exposition du Palazzo Grassi il y a 10 ans.
On appelle maintenant l'art contemporain l'art comptant.
Oui, ça vient de sortir. Ah, que fais-tu ? Je fais de l'art comptant. Ah, t'es content de faire de l'art comptant ? Oui, je suis content. Alors, revenons à la Fondation Pinault. Aujourd'hui, nous, le besoin de démonstration de force. La force est là, tranquille. Et le Palazzo Grassi peut se permettre de présenter une magnifique rétrospective dédiée à Sigmar Polk, un des plus importants peintres allemands de son temps, disparu il y a bientôt 6 ans, à l'âge de 69 ans. François Pinault possède 16 des 95 toiles exposées, c'est pas de la gnognotte, hein, mais pour la Pointe de la Douane, le milliardaire a demandé à la directrice de sa collection, Caroline Bourgeois, de concevoir une exposition à partir des œuvres minimalistes qu'il possède. Et pour rester dans la tonalité minimaliste, mon cher Yves, je dirais
que le résultat est juste sublime. L'art minimaliste, c'est l'art de produire de l'émotion avec un seul geste, de la poésie sans artifice, de la force sans effort, de la grâce sans faire de manière. Et parmi les 70 artistes exposés, des stars du genre et des émergents, je laisse Caroline Bourgeois vous présenter Peter Dreyer.
Peter Dreyer est un artiste allemand, dépité des conséquences de l'hitlérisme et qui, à partir de 1972, a décidé de ne faire plus qu'un seul geste, peindre un verre d'eau sur son bureau de jour ou de nuit. La seule règle qui s'est donnée, c'est qu'une fois que le tableau était commencé, il devait le terminer dans la même journée. Il en a fait plus de 3000 aujourd'hui. Il n'a plus jamais rien fait d'autre que ce geste-là, quasiment monacal, hein, qui renvoie à une intériorité, à comment on regarde les choses. Le plus petit est aussi important que le plus grand.
Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais vous avez vu François Pinault à Venise ?
Oui, en deux gondoles, je l'ai vu.
Mais vous lui avez demandé s'il allait oui ou non acquérir la bourse du commerce et de l'industrie à Paris, comme le dit la rumeur.
Il a été très bref. Il m'a dit qu'il n'est pas à Venise pour parler de Paris.
Ah oui.
Alors, je suis allée voir son conseiller, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon.
François Pinault m'a toujours dit, si un jour les circonstances le permettent, nous ferons également quelque chose en France. Parce que d'emblée, il avait cette ambition. Être à Venise ne signifie pas qu'on ne peut pas être ailleurs également. Donc demain, si les réflexions de François Pinault sur la création d'un nouveau lieu en France aboutissaient, il est évident que ça ne signifierait pas la fermeture de Venise. Ce serait Venise plus Paris. Et pourquoi pas d'ailleurs un jour un troisième site ailleurs dans le monde. François Pinault s'entretient avec plusieurs responsables d'institutions culturelles à Los Angeles des relations étroites. Il est familier de la scène californienne. Mais en même temps, quelle que soit son ardeur à engager des projets, il ne pourra pas engager tous les projets à la fois. Il faut y aller un peu marche après marche.
Ah oui, mais alors la scoop, est-ce que vous trouvez plausible que François Pinault achète la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour installer sa collection ?
Mais pourquoi pas ? Yves, l'art n'est-il pas un commerce ? Il y a bien de l'art dans l'industrie. En tout cas, la bourse du commerce me paraît plus que plausible parce que cette rotonde du XVIIIe siècle est magnifique.
Un
et son emplacement, vraiment rêvé. Elle est juste à mi-chemin entre le musée du Louvre et le centre Pompidou. Alors on se souvient des déboires du milliardaire quand il a voulu installer sa collection sur l'île Séguin. Ça serait une belle revanche là. Et si ça se fait ? Parce qu'il n'y a pas de confirmation ni de chez Pinault ni de la mairie de Paris. Il est fort probable que François Pinault confie à son architecte fétiche, Tadao Ando, le soin de restaurer le bâtiment. Les travaux sont estimés, paraît-il, à 100 millions d'euros et ils dureraient environ 2 ans. Il se dit que François Pinault annoncerait avant l'été cette acquisition lors d'une conférence de presse commune en compagnie d'Anne Hidalgo, maire de Paris, et que le lieu ouvrirait ses portes donc en 2018. 13 ans après l'abandon de son projet au musée le projet de musée à Boulogne. Mais comme M. Pinault n'aime pas les anniversaires, on ne dira pas que le chiffre 13 porte malheur ou bonheur, selon les croyances.
Allez, François, venez nous faire une belle fondation à la Bourse du Commerce.
Et venez nous en parler sur RTL.
Souhaitez bien, évidemment. Ça, vous êtes le bienvenu. Voilà. Tout le monde est d'accord. Vous savez quoi ? Dans un instant, on saura si vous avez gagné des DVD de No Offense qui vous étaient offerts ce matin par Isabelle Morini-Bosque, dans sa grande magnanimité.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Je vous rappelle que nous vous offrons aujourd'hui les DVD de la saison 1 de No Offense, diffusée en début d'année sur France 2. Et justement, la question qui vous était posée était « Quelle personnalité de France 2 présentera l'an prochain le nouveau magazine de cinéma sur la chaîne ?»
Eh bien, il s'agit de Laurent Ruquier.
Ben voilà, vous avez donc gagné des DVD, ça vaut le coup. Hein. En revanche, on ne sait toujours pas si c'est mardi cinéma ou jeudi cinéma.
Ça sera normalement, c'est mardi cinéma.
Normalement, c'est mardi cinéma.
Ah oui, oui.
Bon, mais... Si vous pouvez reprendre le générique de mon père, ça m'arrangerait. Enfin bon, on verra ça une autre fois. Voilà, merci à toute l'équipe.
Ça serait une idée, ça.
Ah, c'était à l'époque, oui. Merci à toute l'équipe. Passez une excellente journée. On n'a plus qu'à dire bonjour à Julien Courbet.
Vous écoutez RTL.